La carte nationale d'identité, oui, on parle de ça dans cette émission. 2013, l'édition de ce document a été suspendue. Des bandits ont emporté la machine d'édition lors du putsch orchestré par la Séléka. Après plus de 7 ans de suspension aujourd'hui, la carte nationale d'identité est en train de revenir, mais avec un tarif qui fait polémique, 4 500 francs, 6 000 francs ou encore 6 750 francs CFA. Alors, comment et qui doit fixer le tarif d'établissement de la carte d'identité ? Non seulement le tarif, mais l'entreprise en charge d'édition de ce document est aussi controversée, même par des responsables de police. Comment l'entreprise Almadina a-t-elle gagné le marché de confection de cette pièce? C'est le débat. Et pour en parler, l'équipe de Pata reçoit ce week-end Jean-Claude Zoubanda, inspecteur central en matière de police au cabinet du ministère de l'Intérieur chargé de la sécurité publique. Monsieur Jean-Claude Zoubanda, bonjour.
Bonjour.
À côté, nous avons Augustin Agou, député du premier arrondissement, membre de la commission finances à l'Assemblée nationale et président du parti La Renaissance, monsieur Agou, bonjour.
Bonjour.
Bruno Hyacinthe Guégba, avocat à la Cour, coordonnateur de la coalition centrafricaine pour la Cour pénale internationale, une organisation membre du groupe de travail de la société civile. Monsieur Guégba, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs. Nous sommes aussi déjà membres du réseau des organisations de promotion et de défense des droits de l'homme.
D'accord. Nous avons aussi Karl-Michael Kikobé, premier vice-président du Conseil national de la jeunesse. Monsieur Kikobé, bonjour.
Bonjour.
À la console, c'est le service de David Bema et Sosten Zonaïta. Au micro, je suis Rodrigue Leroy Benga. Je bénéficie de l'appui de Claire Ndombea Samba, Stéphane Flemale et Armando Yangindi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Patara sur Radio Ndekeluka.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Mais avant d'entrer dans le débat, suivant Armando Yangindi, Armando, les députés sont montés au créneau pour dénoncer un arrêté interministériel qui fixe le tarif des documents administratifs sécurisés.
Les députés ont opposé à l'unanimité à une fin de non-recevoir la grille tarifaire en vigueur. Un recadrage justifié par le vote des élus qui fixait à 4 500 francs CFA alors que l'arrêté ministériel fixait à 6 750 francs CFA la carte d'identité. Autre point, la carte de séjour pour les étrangers passe de 50 000 à 250 000 francs. Francs CFA. Pour les députés, c'est une augmentation de trop. Hiérarchisation de normes oblige, aucun envoyé n'est plus grand que celui qui l'envoie. Augustin Agou, député du premier arrondissement de Bangui, dénonce une violation flagrante de la loi.
Mais justement, puisqu'il a signé, l'arrêté est là. Le ministre des Finances a signé. Or, normalement, il ne devait pas dû signer. Et nous avons fixé ce document national à 4 500 francs CFA. Et si vous dites que les gens payent aujourd'hui à 6 000 francs CFA selon l'arrêté, et en plus, les informations que nous avons, dans en tout, 6 750. Prenez les 2 250 francs multipliés par 1 million ou 2 millions de francs. Vous voyez l'argent qu'une entreprise privée va engager sur le dos du peuple centrafricain qui souffre aujourd'hui.
Pas question, cet arrêté doit être abrogé. Martin Ziguili, allié du président Touadéra, s'y oppose.
Les dispositions de la loi sont impératives et il faut l'expliquer à tous les membres du gouvernement pour que désormais nous ne puissions pas nous retrouver en face d'un membre du gouvernement ou deux membres du gouvernement qui prennent un arrêté en violation flagrante des dispositions de la loi des finances. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus, cet arrêté est illégal, il est de nul effet, il ne doit pas être appliqué, il doit être abrogé.
En réponse, Henri-Marie Dondra, ministre des Finances, affirme que cet arrêté n'émane pas de lui. Les députés ont dénoncé les rackets liés aux documents dont font l'objet certains compatriotes sur les barrières. Des policiers et gendarmes procèdent déjà au contrôle des cartes d'identité alors que des imprécis restent encore à régler. Ces porteurs de tenues exigent à tous ceux qui n'en ont pas de payer des amendes allant jusqu'à 12 000 francs CFA. Affaire à suivre.
Merci à vous, Armando Yangindi. Monsieur Augustin Agou, vous êtes intervenu dans ce tellement. Est-ce que vous continuez toujours à dénoncer cet arrêté ministériel?
Je vous remercie de l'opportunité que nous avons fait pour parler au peuple centrafricain, parce que c'est un document national. Je remercie Dieu si vous avez vous-même suivi hier sur la radio mondiale, LFI, ils ont évoqué notre carte d'identité nationale et surtout la société dite Almadina. La moralité de propriété de cette société-là. Bien, je continue de dénoncer parce que c'est la loi. Nous avons notre constitution qui fixe les prérogatives de chaque institution. C'est le Parlement qui vote. Je parle ici de la loi des finances. Et donc, la loi des finances, c'est le document du gouvernement. Et c'est le ministre des Finances qui représente le gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale et qui vient défendre le budget au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, le montant qui est fixé dans la loi des finances, voté par l'Assemblée nationale et promulgué par le chef d'État, émane du gouvernement. Donc ce n'est pas nous, les parlementaires, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a indiqué ce prix-là à 4 500 francs, c'est ça. C'est le gouvernement, en l'occurrence le ministre des Finances, qui a indiqué et nous avons examiné et nous avons voté. Et donc, c'est la loi. Ni le président de la République ne peut pas prendre un décret pour abroger la loi. Ni un ministre de la République ne peut pas prendre un arrêté pour abroger la loi. La loi, c'est la loi. La loi doit être appliquée par tout le monde. Malheureusement, ça, je qualifie de ce qu'on appelle, dans le jargon, chez nos amis les Milanais, ceux qui sont du côté de Milan, ils appellent ça la mafia. C'est l'escroquerie, c'est le vol et c'est le détournement. Et ça mérite la prison. C'est l'acte qu'on a proposé, même si, à un moment donné, au niveau de l'Assemblée nationale, lorsque la question a été soulevée, le ministre des Finances a indiqué que l'arrêté n'émanait pas de lui, mais de son collègue de l'Intérieur. Mais moi, en tant que député, j'ai dit ceci, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui vient au niveau de l'Assemblée nationale pour défendre la loi des finances. C'est le ministre des Finances. Malheureusement, cet arrêté porte bel et bien la signature du ministre des Finances. Pire encore, si vous parcourez le document, il n'y a ni un visa d'un chef de service quelconque, ni un visa d'un directeur de service quelconque, parce qu'on parle aussi de l'argent et on parle aussi des timbres. Donc, c'est de la mafia, c'est de l'escroquerie. On est en train d'espolier le peuple centrafricain qui souffre aujourd'hui et je continue de dénoncer. On va dénoncer jusqu'au bout.
Merci. On va parler de long à large dans cette émission. Monsieur Jean-Claude Zoubanda, vous représentez le ministère de l'Intérieur, vous représentez le gouvernement. Alors que c'est le gouvernement qui est censé faire respecter la loi, c'est voté 4500 francs le tarif de l'établissement de la carte d'identité nationale. Mais aujourd'hui, les centrafricains payent à 6000 francs sur les reçus, mais à 6750 francs si on évalue les frais qu'ils ont payés à côté. Mais aujourd'hui, pourquoi ne pas appliquer la loi et le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances préfèrent faire payer aux centrafricains le tarif qui n'est pas voté par la loi?
D'abord, je commencerai par faire une rétrospection. Au départ, le prix de la carte nationale d'identité a été fixé à 4500. Et nous tous, nous savons, quand ces cartes s'éditaient à 4500, le niveau de sécurisation n'était pas tellement élevé. Alors, après la crise de 2013, comme vous l'évoquez ici, il est question, selon la politique du gouvernement, de remettre en route la carte nationale d'identité. Et au niveau du département, les techniciens ont bien voulu contourner les difficultés d'antan. Parce qu'entre-temps, à 4500, je vous le avoue, ces cartes se falsifiaient à tout bout de chemin. Il n'y a pratiquement aucun niveau de sécurisation renforcé. Alors, pendant les discussions des marchés, le département a imposé à la société qui souhaiterait prendre en compte l'édition de cette carte 5 niveaux de sécurisation. Et une fois, cette société qui va s'engager là-dessus tiendra compte de tout ça. Vous vous souvenez?
Quels sont ces 5 niveaux de sécurisation?
Ça fait partie des technicités du département. Je ne peux pas vous livrer sur la table publique parce que nous savons que les fossoyeurs nous suivent et qu'ils auront toujours à écouter des informations pour nous contourner. Donc, ça fait partie des réserves. Et les 5 niveaux de sécurisation, la société qui s'aventurait à prendre l'édition de cette carte va l'éditer en tenant compte de tous ces niveaux pour freiner la velléité de cette contrefaçon. C'est ainsi que, vous vous souvenez, la société qui est aujourd'hui controversée, comme vous le dites, a pris le marché. Dans un premier temps, a proposé le prix à 15 000. Et les voix se sont élevées, ça et là. Et suite au conseil du ministre, je crois, un rapport même a été lu sur les ondes il y a de cela un an. Le prix a été ramené à 6 000 francs. Et tout en tenant compte de ce niveau de sécurisation. Et c'est partant de cela que ce prix de 6 000 francs a été retenu pour que les cartes soient désormais éditées aux citoyens qui en ont besoin.
Est-ce que c'est ce 6 000 francs-là qui est proposé dans la loi des finances votée par l'Assemblée nationale? On va revenir sur cette question, mais d'abord, Maître Bruno Yassine Bigba, vous êtes de la société civile. Les députés fixent un tarif 4 500 francs, un arrêté interministériel fixe à 6 000 francs CFA. Quelle est votre lecture des choses?
En suivant l'honorable Agou et le responsable de la sécurité, je suis sérieusement étonné. Parce que logiquement, lorsque le représentant du ministère de la Sécurité publique dit qu'il fallait des spécifications pour les niveaux de sécurisation, il était souhaitable que le ministère de l'Administration termine toute cette démarche de spécification sur la sécurisation avant maintenant de proposer au ministère des Finances un montant. Et lequel montant, lorsqu'il est voté par les députés, c'est ce que tout le monde doit respecter. Mais nous ne pouvons pas comprendre que l'on amène aux députés un autre montant. Les députés votent. Le ministère de la Sécurité reprend le document et va maintenant compléter avec des informations que les députés n'avaient pas. Alors, il y a ce qu'on appelle le vote des collectifs budgétaires. Je souhaite et il est impératif que le ministère de la Sécurité renvoie ces informations aux députés pour corriger le montant. Sinon, c'est une faute grave. on ne peut pas faire voter aux élus de la nation un montant, parce que c'est la loi qui est supérieure aux arrêtés. D'abord, la loi est supérieure aux décrets, et maintenant, le décret est supérieur aux arrêtés. Et voilà maintenant que c'est un simple arrêté qui remet en cause les termes d'une loi. Je pense que ça, c'est une faute politique qui est très grave, c'est anormal. Il faudrait que la RCA fonctionne normalement. Nous souhaitons que les responsables de la sécurité publique respectent la loi. Ils ne peuvent et ne doivent faire payer que 4 500 à la population. Pour ce qui concerne la carte nationale d'identité, on en parlera parce que je me dis que ce n'est pas la carte nationale d'identité. Ça, c'est une carte qui est limitée qu'à Bangui. Parce que les dispositions ne sont pas encore prises pour que les frères et sœurs qui sont dans les provinces ne puissent rentrer en possession de ce document. Donc pour moi, c'est un document qui ne concerne que les 8 arrondissements de Bangui plus Limoué-Bégoua. Okay, donc ce n'est pas une carte nationale d'identité, mais c'est une carte locale d'identité.
Ok, on va revenir dessus. Mais en attendant, hein, la jeunesse ou la population commence déjà à payer avec ce prix de 6 750 francs si on fait inclure les autres dépenses qui sont imposées au niveau de la police. Monsieur Karl Kikobé, vous êtes de la jeunesse, le premier vice-président du Conseil national de la jeunesse. La population commence déjà à payer cette carte avec ce prix déjà indiqué. Comment réagissez-vous à cela?
Merci, monsieur Rodrigue. Je tiens à faire 3 précisions avant d'aborder le sujet. Premièrement, je tiens à préciser autour de cette table que s'il y a une entité à défendre par monsieur Kikobé dans ce studio, c'est la jeunesse. Deuxièmement, je tiens aussi à préciser, quand nous avons reçu votre invitation, nous avons pris notre temps de recouper toutes les informations afin d'aborder la question de façon professionnelle pour mettre toutes les informations fiables à la disposition de la population. Et troisièmement, je tiens aussi à préciser que nous parlons ici, je l'ai dit, de façon professionnelle et tout ce que nous allons dire ne sera pas basé sur la mauvaise foi. Messieurs, vous êtes tous sans ignorer que la jeunesse centrafricaine représente 72% de la population totale. Mais non seulement qu'elle représente 72% de la population totale, mais c'est une catégorie de la population la plus pauvre. C'est une manière de vous dire que les jeunes, même pour survenir à leurs besoins parfois, ils n'arrivent pas. Alors, payer ces 1750, quand ils ne seront pas à la hauteur justement de payer ce montant, c'est que sûr, la police fera son travail, la gendarmerie fera son travail. Et quand ils ne vont pas se disposer de cette carte, la seule solution, c'est de les envoyer en prison. Maintenant, la question que l'on doit se poser, pourquoi est-ce qu'on a fixé ce prix à 6 750? Je souhaiterais à ce que vous reposiez cette question au personnel du ministère qui est avec nous, parce que certains disent que c'est le...
C'est pour cela que nous sommes là, ces questions seront posées, oui.
Excusez-moi, d'aucuns disent que c'est le ministère des Finances qui a initié justement cet arrêté. D'autres disent que c'est le ministère de la Sécurité qui a initié cet arrêté. Alors, il faudrait qu'ils nous disent sur ce plateau, qu'est-ce qui a initié cet arrêté? Et deuxièmement, nous pensions que si c'est l'entreprise El Madina qui a proposé ce prix, pour nous c'est normal, parce que c'est une entreprise. Vous êtes tous sans ignorer qu'une entreprise a pour objectif la maximisation du profit. Oui. Maintenant, l'entité ou encore la personne morale qui devait discuter ce prix afin de mettre à la disposition de la population un prix abordable, c'est l'État. Partout ailleurs, les entreprises fixent le prix, l'État discute, après l'État fait ce que c'est que la compensation. Si c'est à 10 000 francs, l'État fait la compensation, l'État paye exemple 9 000 francs et la population paye 1 000 francs. Et donc pour nous c'est une manière d'envoyer les gens en prison, nous déplorons le prix qui est fixé de façon élevée, mais nous souhaiterons aussi à ce qu'il y ait une discussion pour que l'on puisse mettre à la disposition de la population les cartes qui... ont un prix vraiment abordable.
Vous déplorez le prix, monsieur Jean-Claude Zoubanda, d'après ceux qui sont intervenus ici, ils se réfèrent toujours à vos propos et à des questions qui sont revenues. Vous faites allusion au coût de la production de la carte d'identité, mais est-ce que vous tenez compte du pouvoir d'achat de la population?
Je crois que le représentant de la jeunesse l'a si bien évoqué, une entreprise à la recherche de profits, de bénéfices. Et quand je suis vu maître, je crois qu'il y a des services compétents pour les marchés de l'État qui rédigent les avis d'appel d'offres. Et quand j'ai suivi le représentant de la jeunesse ici, se dit le gouvernement est en train d'envoyer la jeunesse à la prison, j'ai mis des doutes, j'ai mis des réserves en ce sens. Qu'à l'époque où ces cartes ne se délivraient pas, les récépissés se font délivrer à 2000 francs pour une période de 3 mois. Et si vous voyez une estimation ici, les 6000 francs au total, après 9 mois, vous êtes censé revenir une fois le faire. Et la volonté du gouvernement ou la volonté du département, c'est de mettre ces cartes au profit, pas seulement de la jeunesse, c'est un document de souveraineté où alors tout le monde en a besoin. y compris moi-même, voilà, avec un montant qu'il fallait payer au moins une fois du moins, et se départir de toutes les tracasseries, parce que chaque fois il faut revenir à la source. Selon lui, à l'époque, il disait que ces récipiés se délivraient à 2000 francs, comme il le pense. Mais la jeunesse, ou alors cette frange de la population, ou alors les populations qui en ont besoin, revenaient une fois devant ces services compétents pour se faire délivrer ce document.
Donc pour vous, ça va continuer comme ça?
Non, justement, c'est parce que la hiérarchie ou alors le gouvernement n'a pas voulu que cela se continue de cette sorte, qu'un montant qui a été proposé soit retenu et que les cartes, une fois payées, pour un délai de 10 ans, vous êtes tranquille, vous ne pouvez pas revenir plusieurs fois.
Et mais est-ce que ce montant-là tient compte du pouvoir d'achat de la population? C'était ça la question.
C'est vous qui le dites. Le gouvernement a sous-traité.
Mais comment
c'est-il
à recevoir des plaintes?
Écoutez, le gouvernement a sous-traité. C'est une entreprise qui est à la recherche du profit. Je vous ai rappelé tout à l'heure dans l'histoire qu'à l'époque, le prix de l'entreprise, compte tenu du niveau de sécurisation que nous avons mis en place pour tout société qui s'aventurait prendre le marché. Cette société a proposé un prix de 15 000 francs. Et à l'issue d'un conseil du ministre, le prix a été ramené à 6 000 francs. Certes, je crois que l'honorable l'a aussi évoqué ici, même si les sous ou alors les mini-recettes s'éparpillaient, il revient au gouvernement de définir les assiettes fiscales. Et donc, c'est dans cette perspective où moi j'ai vu que à ce niveau, il ne devait pas poser de problème.
À votre niveau, il ne devait pas se poser de problème. Maître Bruno Hyacinthe Biegba, est-ce que à votre niveau, cela ne devait pas se poser de problème si aujourd'hui on dit à la population centrafricaine de payer la carte d'identité à 6750 francs vu son pouvoir d'achat?
Avant de parler du pouvoir d'achat du peuple centrafricain, revenons d'abord à ce problème de procédure. Le ministère des Finances a initié un document. Il l'a présenté à la représentation nationale avec un montant, et ce montant c'était 4 500 francs. L'Assemblée nationale a voté. Si le ministère des Finances et le ministère de la Sécurité publique, après constat, estiment qu'il faut modifier le prix, ils font une nouvelle proposition de loi à l'Assemblée nationale. Mais ils ne peuvent pas rester au niveau des bureaux des deux ministres modifier ou bien contredire une loi. Il faut d'abord régler ce... Voilà, il faut d'abord régler ce problème de procédure avant de réfléchir sur le problème de pouvoir d'achat, parce que effectivement l'inspecteur ici présent dit que les justiciables ou bien les Centrafricains passaient chaque 3 mois pour payer 2000 francs. Et donc si on voit chaque 3 mois par 4, ça fait 8000. Ça fait déjà un peu cher, mais là n'est pas le problème. Il faut d'abord régler le problème du respect de la procédure et de la loi. La loi est supérieure au décret, le décret est supérieur aux arrêtés. On doit nous expliquer pourquoi on est passé au-dessus d'une loi avec un arrêté. Il faut qu'on nous explique. Sinon, nous n'allons pas accepter. Il faut seulement faire respecter la loi, demander à ce que les gens payent 4 500 parce que ce sont les représentants du peuple qui ont voté sur proposition du gouvernement. Alors, donc, je ne vois pas pourquoi on doit continuer la discussion.
Monsieur Kisango, oui. Je vous remercie parce qu'il faut repréciser les choses. Il ne s'agit pas ici de mauvaise foi ou de quelque chose. J'ai entre mes mains un document intitulé « La loi des finances pour l'exercice 2020 ». C'est ce document qu'il s'agit ici. Donc, nous avons ce document, la loi des finances 2020. Et ça se passe généralement comment? Ce n'est pas nous, les députés, qui fabriquons les montants et ceci. Ça se passe au niveau du gouvernement. Il y a ce qu'on appelle les échanges budgétaires entre les sectoriels. C'est-à-dire que j'entends par les sectoriels les différents départements ministériels. Ils se regroupent au niveau du ministère des Finances, à la direction générale du budget, et chaque ministère apporte son problème et le gouvernement monte le budget. Et ensuite, le budget, une fois validé au niveau du Conseil des ministres, le ministre des Finances transmet au niveau de l'Assemblée nationale. Et il y a des procédures au niveau de l'Assemblée nationale. Nous, je suis de la commission finance, appelée commission maire. C'est nous qui examinons le budget. Et quand nous recevons d'abord les techniciens du département du ministère des Finances, comprenez? Et donc, le dirigeant du budget, avec tout le monde, on leur pose des questions parce que c'est ce que la loi nous demande de le faire. Et après, nous recevons le ministre des Finances avec tous ses collaborateurs, le DG des douanes, le DG des impôts, tout le monde l'accompagne. Et nous posons des questions au ministre et il nous donne des réponses. Donc, ce document, c'est la loi, est voté ici et la loi a été déjà promulguée, applicable. Maintenant, si je suis des propos de représentant du ministère de l'Intérieur, et on parle de niveau de sécurisation, je veux bien quoi, mais revenons en arrière. Est-ce que la loi concernant la passation de marché a été respectée? Est-ce qu'il y a eu passation de marché?
Non. C'est un marché de gré, gré. Hein, c'est un marché de dupes. C'est un marché de négociation de gré à gré. Et donc, il y a eu violation de la loi concernant le passage de marché à ce niveau. Premièrement, alors donc, si le gouvernement a demandé à l'Assemblée nationale le prix de la carte d'identité nationale, c'est 4 500 francs pour une période de 10 ans, nous avons accepté, nous avons voté. Si à un niveau donné, à un moment donné, si l'entreprise Almadina estime qu'ils ont des charges qu'ils n'allaient pas supporter par rapport au prix de 4 500 francs, il y a ce qu'on appelle le collectif budgétaire. Chaque année, le gouvernement revient au niveau de l'Assemblée nationale avec ce qu'on appelle le collectif budgétaire. Pour cette année 2020, nous avons reçu au niveau de l'Assemblée nationale le collectif budgétaire que nous avons voté il y a à peine un mois et demi, au mois de juillet 2020. Or, c'est ce qui devait se faire. Le gouvernement devait dire, bon, d'accord, nous prenons acte de vos problèmes, mais nous allons revenir au niveau de l'Assemblée nationale avec un collectif budgétaire pour demander que ce prix-là doit être revu à la hausse. Oh, ça n'a pas été le cas. L'arrêté a été signé en mai 2020, mais le gouvernement savait qu'il y avait un collectif budgétaire qui devait venir. Généralement, on reçoit le collectif budgétaire au mois de juin. Vous voyez. Donc, cette année, il y a eu un petit retard de 2 semaines qu'on a voté au mois de juillet. Donc, vous voyez, ça, c'est à ce niveau qu'il y a le problème. Toute entreprise, c'est pour avoir des
pour
profits.
Maximiser le profit.
Alors, on ne peut pas créer une entreprise pour avoir des pertes. Mais là, nous parlons de la République centrafricaine. Nous parlons de peuples centrafricains qui sont en difficulté aujourd'hui, où il y a le taux de chômage est élevé. Comme a dit le représentant de la jeunesse, il a donné un taux qui est à 72%. Je peux même exagérer jusqu'à 75% des jeunes. Et donc, aujourd'hui, beaucoup n'ont pas de travail. Beaucoup sont en chômage. Et c'est un document capital. On parle, c'est comme si on a oublié que depuis des années, qu'on ne délivre plus la carte d'identité nationale. Tout le monde en a besoin. Pour aller à la banque, pour faire des transactions bancaires, vous avez besoin de la carte d'identité nationale. Pour aller retirer de l'argent, oui, c'est Nyon, ainsi de suite. Que ce soit la jeunesse, que ce soit les fonctionnaires de l'État, ils ont des salaires à prélever au niveau de la banque, ils ont besoin de la carte d'identité nationale.
Donc, c'est ça, très important ce que vous dites. Mais avant de venir vers vous, M. Kikobé, pour la jeunesse, M. Jean-Claude Zubanda, est-ce que vous avez pris en compte les exigences de Almadina et vous avez impliqué dans le projet de loi qui a été soumis à l'Assemblée nationale?
D'abord, je tiens tout de suite à vous relever l'impression se dégage comme si c'était un arrêté ministériel. Or, d'emblée, je vous lève l'équivoque, c'est un arrêté interministériel.
Ministère
voilà,
des finances,
c'est ce langage ministère que vous aurez dû tenir. Un arrêté interministériel. Permettez. J'ai l'impression que vous me limitez tellement le temps d'intervention, ça pose problème. Alors, avec Monsieur le Président, vous avez dit l'attribution du marché. Alors, partant de votre allégation, d'emblée, vous avez dit que ce marché n'a pas été passé par les procédures d'attribution de marché public. À ce niveau, j'émets des réserves. Avez-vous la précision ou la confirmation que vraiment l'attribution de marché de carte nationale d'identité n'a pas respecté les codes de procédure de marché public? Si oui, est-ce que vous savez au moins que ce n'est pas tous les marchés au niveau de la sécurité qui devaient nécessairement passer par le code de marché public? Je ne suis pas financier, mais je vous pose au moins cette question.
Bien, je réponds si vous permettez, puisque la question m'a été posée.
Bon, on ne doit pas faire de tic-tac, peut-être vous aurez l'occasion de répondre. Donnons d'abord la parole à la jeunesse qui, depuis lors, n'est pas encore intervenue. La question, hein, vous parlez du pouvoir d'achat de la jeunesse, mais un autre point aussi important, vous parlez des coûts de production de cette carte d'identité nationale, de manière à ce que ça soit bien sécurisé. Mais prenons l'exemple des pays de la sous-région au Cameroun, c'est cette même carte d'identité plus sécurisée qui est produite, mais avec un coût, je crois, c'est 2500 francs au Cameroun, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez des réactions pour ça, le président de la jeunesse?
Merci, monsieur Rodrigue. J'ai comme l'impression que les gens contournent les questions. Les gens ne veulent pas aborder les questions que l'on pose ici de façon sincère. J'ai posé une question au représentant du ministre de la Sécurité. J'ai dit, nous savons très bien, il n'a pas besoin de nous faire la précision, nous savons très bien que c'est un arrêté interministériel. Mais qui a été à l'origine, qui a initié cet arrêté, qui nous dise, est-ce que c'est le ministère des Finances ou le ministère de la Sécurité? Maintenant, pour vous reprendre, vous savez que vous parlez du Cameroun. Avant de venir, je vous ai dit que nous avons pris notre temps pour récupérer les informations, pour mener des investigations, enfin de parler avec toute précision. Sur le Cameroun, on a découvert quelque chose, que l'entreprise qui a fourni les cartes d'identité, la population camerounaise a fixé son prix à 25 000 francs. Maintenant, qu'est-ce que l'État a fait? L'État a discuté, comme je l'ai dit, l'État a fait une compensation de 23 000. Maintenant, la population paye les 2 000 francs. Cela veut dire que l'autorité camerounaise a le souci de la population. L'autorité camerounaise est consciente justement de la situation de précarité que vit la population camerounaise. Donc nous souhaiterons à ce que cela se passe aussi en République centrafricaine. Nous savons que cela a des coûts. Nous savons qu'ils ont apporté, bon, selon eux, des contributions qui se réservent justement de nous dire, nous ignorons justement la vraie cause. De toutes les manières, ce n'est pas un secret, parce que c'est nous qui allons utiliser. Et donc, normalement, s'il y avait des choses que l'on a ajoutées, ils devaient nous dire.
Vous n'êtes pas personnel de la police?
Et donc, s'il y avait des valeurs ajoutées, justement, c'est eux qui devaient supporter le coût. Ils ne devaient pas mettre le coût sur la charge justement de la population. Ils savent très bien, non seulement que la population justement vit dans une précarité ou encore dans une pauvreté extrême, mais la jeunesse de façon particulière n'a pas d'emploi. Le plus vieux ami de la jeunesse, c'est le chômage.
Je reviens vers vous, monsieur Jean-Claude Zoubanda. Une question que j'ai posée que vous n'avez pas encore répondu, est-ce que vous avez tenu compte des coûts de production de cette carte d'identité que vous avez inclus dans le budget voté?
Je commencerai par la préoccupation de mon voisin de
Troyes. Rapidement, oui.
Et avant d'arriver à la vôtre, il est en train de poser la question de savoir qui est l'initiateur de l'arrêté. Mais en tout cas, je dirais tantôt que c'est un arrêté interministériel.
Comme vous l'avez déjà dit.
Et comme je l'avais déjà
dit. Ministère des Finances et ministère de l'Intérieur.
Et que je n'ai pas ce devoir de lui rendre compte, de savoir exactement avec précision ce qui se passe dans une administration. Il y a d'abord ça. Et de deux, vous dites que le gouvernement est conscient, et au Cameroun, le gouvernement est soucieux de sa population. Mais je dis, c'est exactement le cas similaire. J'avais évoqué tout à l'heure en introduction que, compte tenu du niveau de sécurisation que nous avons inséré, l'entreprise qui pensait prendre en charge l'édition de cette carte avait fixé le prix à 15 000. Le gouvernement a discuté cette fameuse discussion dont il a bien voulu évoquer ici, a discuté pour ramener le prix à 6 000. À 6 000 pour avoir un prix intermédiaire pour que ce document soit édité. Je crois que le vrai problème réside au niveau de la procédure dont Maître est en train d'évoquer tout à l'heure.
Voilà, c'est ça.
Et de toute manière, si le gouvernement pense définir l'assiette fiscale ou alors générer des recettes, des revenus dans la caisse de l'État, je crois que ce n'est pas par mauvaise foi. Entre-temps, ces ressources ou ces revenus, c'est pas payé ou alors aller dans les poches des... Je me réserve des personnels à peu près indélicats qui ont disposé, et comme vous le dites, c'était responsable de police même qui décriait. Et si ces responsables de police qui décriaient prenaient soin de se rapprocher auprès de leur hiérarchie pour faire des suggestions constructives, ce serait intéressant. Ou alors des suggestions intéressantes, comme vous l'évoquez. Alors, si vous pouvez me ramener, me rappeler votre dernière préoccupation.
Les 6 000 francs que vous dites là, est-ce que c'est inclus dans la loi des finances?
Les 6 000 francs que vous évoquez, je crois que c'est un arrêté interministériel. Nous avons conçu un document en tenant compte de notre niveau de sécurisation. Et c'est un document où on a associé des spécialistes. C'est un arrêté interministériel.
Sans pour autant passer devant l'Assemblée.
Mais justement, mais le département des finances qui est censé définir les assiettes fiscales. Nous avons fait des propositions. On a discuté. Et comme le maître est en train d'évoquer tout à l'heure, mais c'est pas mauvais si nous avons vu qu'un tel document, avec le niveau de sécurisation, mais il fallait régulariser la forme. Et à ce point, peut-être je serai d'avis avec le maître pour tenir compte des valeurs juridiques ou des normes juridiques.
Ok, merci. Maître Bruno Yassine Biegbea, vous avez insisté sur la violation de procédures. Oui, il y en a aujourd'hui, comme le reconnaît le représentant du ministère de l'Intérieur. Mais l'autre question, c'est le fait de combler ce coût-là. J'avais donné l'exemple ici de ce qui se fait au Cameroun pour produire un document sécurisé, mais le coût n'est pas ce qui est imposé ici aujourd'hui en République centrafricaine.
Vous savez, non seulement qu'on a violé le coût, mais on a mis les charrues avant les bœufs. Et en plus, comme l'a dit l'inspecteur, il a réagi quand l'honorable a évoqué le problème de l'attribution de ce marché à Al-Madina. Il a dit qu'il s'agissait d'un marché de sécurité. Mais le marché de sécurité, c'est pour quel, c'est pour la sécurité de qui? C'est pour la sécurité de la population. Donc, on doit toujours respecter certaines normes. On ne peut pas, au nom de la sécurité, aller prendre un monstre pour venir installer en République centrafricaine. C'est pas normal. Nous aurons souhaité que le ministère de la Sécurité et le ministère des Finances terminent les spécifications, arrêtent une valeur et maintenant ils se dirigent vers l'Assemblée nationale. Maintenant, pour ce qui concerne le coût, si le coût est trop élevé, à ce moment-là, on fait recours à l'État pour subventionner et maintenant diminuer la charge sur la population, comme au Cameroun. Mais ici, les choses sont passées dans un désordre innommable. Le ministère des Finances balance un montant de 4 500 aux députés de bonne foi qui votent. Et encore ce même ministère se retrouve avec le ministère de la Sécurité. Ils arrêtent un autre montant, ils imposent maintenant à la population. La seule chose aujourd'hui à faire, c'est de faire disparaître cet arrêté parce que la loi est là. Sinon, personne ne va plus croire à rien. Quand on parle de l'état de droit, c'est parce qu'il y a des textes qui existent et ceux qui sont chargés de les appliquer, les respectent. Mais si on impose à la population de respecter les textes,
Mais nos responsables ne respectent pas les textes, mais nous sommes dans un désordre. Nous ne sommes plus dans un état de droit, nous sommes dans un état désordonné et nous sommes en danger permanent. Donc il y a une insécurité juridique si on continue de maintenir cet arrêté interministériel. Il est urgent de vite retirer ce texte de la circulation.
Retirer ce texte de la circulation, cette demande a été déjà formulée en amont. C'est la présidente du Conseil national de la jeunesse, Madame Pamela Audrey Dirom, qui avait également demandé que cet arrêté soit abrogé. Nous l'écoutons.
Il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale concernant la carte nationale d'identité. Le taux qui avait été proposé par le gouvernement, à raison de 15 000 francs pour 5 mois, et puis, je crois que tout le monde s'est levé pour dire non à cela. Et l'Assemblée a tranché pour qu'aujourd'hui, on ait, avec la loi votée, la somme arrêtée de 4 500 francs. Nous demandons ensuite au gouvernement d'assumer pleinement son rôle de défense et de protection des citoyens dans le strict respect des lois en vigueur. D'abroger l'arrêté conjoint augmentant le prix de la carte nationale d'identité à 6 750 francs au lieu de 4 500 francs fixés par la loi. Car une loi a été votée et a fixé les prix de la carte d'identité nationale. Respectons cette loi et aussi nous demandons de rembourser ceux qui ont payé les 6 750 car nous pensons qu'il faut éviter d'exploiter davantage les jeunes qui vivent déjà sous le seuil de la pauvreté.
Ça fait longtemps que ce message est passé. Beaucoup de gens demandent que cet arrêté soit abrogé, mais ça ne se fait pas. C'est quoi la prochaine étape, monsieur député Augustin?
Bien, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même repréciser quelque chose. Si je suis ici, c'est parce qu'il y a une loi qui a été votée et cette loi a été violée. C'est pour ça que nous nous sommes levés et on a commencé à crier là-dessus. Maintenant, je réponds d'abord à votre préoccupation, c'est de dire qui est l'initiateur de cet arrêté. Lorsque nous avons auditionné, puisque moi, ça fait 4 ans et demi aujourd'hui que je suis à l'Assemblée nationale, à la Commission Finances, oui. Je n'ai jamais reçu le ministre en charge de sécurité de l'intérieur au niveau de la Commission Finances. Parce que pour moi, député, ce n'est pas le ministre en charge de sécurité qui est l'argentier du pays, qui défend la loi de finances au niveau de l'Assemblée nationale. Il s'agit du ministre des Finances. Et donc, ce sont les propos du ministre des Finances qui nous a dit que l'arrêté a été initié par son collègue ministre de l'Intérieur. Mais là où le bas blesse, là où nous ne sommes pas d'accord, c'est qu'il a apposé sa signature au bas de ce document. Moi, M. Agou, j'ai dit que non, même si c'est son collègue de l'Intérieur qui était initiateur de cet arrêté, lui qui est le garant de l'application de respect strict de la loi de finances, c'est à lui de conseiller à son collègue de l'Intérieur, dit non, collègue, cet arrêté, je ne peux pas signer parce que ça viole la loi de la République. Bien, puisque je suis en train de préparer un collectif budgétaire, donc patiente que je dois inclure ce que tu demandes là dans le collectif budgétaire, je ramène au niveau de l'Assemblée nationale. C'est une fois l'Assemblée nationale acceptée, votée, à ce moment, ça va être appliqué. Je suis sûr que son collègue de l'Intérieur ne devait pas refuser ni discuter. Mais malheureusement, il a posé sa signature au bas du document et il a signé, il a mis le cachet. Pire encore, monsieur le journaliste, pire encore. Parce que lorsqu'on nous parlons, vous voyez, ici, on a cité vu le décret, vu, il a dit ici, vu le marché, entente directe, vous voyez, entre la société Amadina et le gouvernement centrafricain. Voilà pourquoi j'ai évoqué tout à l'heure que
la passation du marché,
c'était un marché de gré à gré. Et vous avez suivi RFI. RFI a posé la question au ministre de l'Intérieur de savoir est-ce qu'il ne connaissait pas la mentalité du patron de la société Amadina qui est proche d'Al-Qaïda, qui est ceci, qui pose problème à la République centrafricaine. Il s'agit de notre pays. Parce que notre inquiétude, c'est quoi? Ce document, aujourd'hui, un jour, peut se retrouver entre les mains des malfrats d'Al-Qaïda.
Ce que vous dites est important, mais on va revenir là-dessus. Justement. Ça fait vraiment partie des tranches de ce débat.
Maintenant, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, pour répondre maintenant à votre question, la procédure au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes en vacances parlementaires. Mais lors du collectif budgétaire, nous avons bien, c'est sorti dans le rapport. Lui, au niveau de la plénière, on a demandé au gouvernement de retirer purement et simplement, et vous avez suivi le président Diguiré, qui est le président de la Commission Finances tout à l'heure, nous avons demandé à la plénière. Tous les députés ont été unanimes que l'arrêté doit être annulé. Malheureusement, ils ont persisté. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de l'escroquerie. Qu'est-ce qui se passe? La loi a fixé le prix à 4 500 francs CFA. La loi n'a pas été abrogée. Et donc, cette société Almadina va se baser seulement sur la loi, puisqu'il y a le code-part du gouvernement dedans.
Vous avez une minute.
Oui, le code-part du gouvernement dedans donne les 4 500 francs CFA. Et aujourd'hui, si les compatriotes africains vont payer 6 000 francs CFA, je vous pose la question. Les 6 000 francs vont rentrer dans la caisse de qui? Les 6 000 francs CFA rentrent dans la caisse de la société Almadina. Et derrière tout ça, c'est seulement sur la base de 4500 qu'Amadidan va rétrocéder la part qui revient au gouvernement. Et tout le reste sont dilapidés et partagés sur le dos du peuple centrafricain. Et donc, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous sommes en vacances parlementaires. On va reprendre la session ordinaire en octobre 2020. Pendant cette session ordinaire, si cet arrêté n'a pas été annulé, bon, nous allons encore revenir encore là-dessus. Et cette fois-ci, on va être très, très dur avec le gouvernement.
Mais la procédure, sur le plan procédural, qu'est-ce qui doit être fait?
Mais je vous ai dit, à ce moment-là, nous sommes en vacances parlementaires. Nous ne sommes pas en session. Et donc, pour le moment, nous, députés, nous ne pouvons rien faire. On ne peut qu'agir si nous sommes en session, soit extraordinaire, soit en session ordinaire. Mais là, maintenant, il n'y a pas de session extraordinaire. Nous attendons en octobre pour revenir en session ordinaire. Et à ce moment, puis pire encore, c'est la session budgétaire. En octobre, le gouvernement est censé nous ramener dans l'Assemblée nationale le budget pour l'exercice 2021. À ce moment-là, si cet arrêté n'a pas été abrogé, nous allons exiger d'abord au gouvernement de rembourser l'argent qui a été volé. Parce que c'est du vol, c'est de l'escroquerie. Les cas de 2 millions francs doivent être remboursés aux peuples centrafricains qui ont eu déjà à verser comme, à la caisse de cette soudain.
Comme l'a dit la présidente du Conseil national de la jeunesse, M. Karl Michael Kikobe, ça fait longtemps que cet appel a été lancé pour que cet arrêté soit abrogé, mais ce n'est pas fait. Mais qu'est-ce que la jeunesse compte faire pour l'instant?
Depuis la semaine passée, je crois que nous avons entrepris certaines démarches. Et donc, on a été discuté avec le ministre des Finances sur cette question. Bon, une parenthèse, si le président n'avait pas brandi justement ce document, j'allais aussi émettre une réserve vis-à-vis de ce qu'il a avancé, parce que j'ai appris à émettre des réserves vis-à-vis de ses propos depuis qu'il est passé chez nous au Conseil national de la jeunesse. L'avoir reçu, c'est une parenthèse, mais l'avoir reçu au Conseil national de la jeunesse, il a mis beaucoup des informations à notre possession. Entre autres, il nous a dit qu'il a eu à échanger avec le responsable de la société El Madina. Et donc, ce dernier lui a fait comprendre que lui, il produit les cartes d'identité à 4500 francs. Et les 2750 entrent directement dans la poche du ministre des Finances et aussi celui de la Sécurité. Après la vérification, on a découvert que c'était faux.
Comment vous l'avez découvert que c'était faux?
Parce qu'on a été voir le ministre des Finances, on a eu à échanger avec lui. On a été voir ceux de El Madina, on a été voir le personnel aussi du ministère de la Sécurité. Tous ces derniers nous ont fait comprendre que justement, c'est parce que ils ont tenu compte justement des valeurs ajoutées de la carte qu'ils ont eu à signer cet arrêté interministériel pour fixer le prix à 6 000 et bon, aussi la charge des photocopies à 750. Ça fait 6 750. Donc, c'est une manière de vous dire.
Est-ce que pour faire les photocopies là, ça peut coûter 750 francs?
Il faut poser cette question aux intéressés.
Nous-mêmes, peut-être vous devez poser cette question là lors
du échange. Nous les avons posé cette question. Et donc, à la prochaine étape, je crois que si nous sommes dans une démarche purement pacifique. Mais nous serons obligés de passer à la vitesse supérieure si jamais les gens ne veulent pas justement faire ce que nous leur demandons.
Monsieur Agou, répétez rapidement, vous avez juste une minute.
Calmement. Monsieur Agou s'est levé jamais pour aller voter au Conseil national de la jeunesse. Monsieur Agou a reçu un document. Si je savais que le problème devait poser, je devais produire à votre niveau. Je garde encore le document. Monsieur Agou a reçu une invitation officielle signée par la présidente du Conseil national de la jeunesse, que le Conseil national de la jeunesse voulait échanger avec Monsieur Agou, qui est député de l'Assemblée et qui est le président du Parti politique de l'Alliance pour le développement durable. Une fois que j'ai reçu le document, l'invitation, j'ai accepté et j'ai été reçu. D'abord, premièrement, Monsieur Kikobe s'en est opposé, puisque Monsieur Kikobe, lui, il est partisan de Monsieur Dandra. Et Monsieur Kikobe, premièrement, il s'en est opposé. Pourquoi on devait inviter Monsieur Agou? Il ne voulait pas. Et des discussions, finalement, ils sont passés au vote et les autres étaient plus majoritaires que lui et finalement, je suis arrivé. Tout ça, c'est quand je suis arrivé là-bas que j'ai eu les informations. Maintenant, quand j'ai soulevé le problème d'arrêté, j'ai dit ceci. J'ai dit au niveau de la Conseil nationale de jeunesse que l'arrêté, ce sont les propos du ministre des Finances au niveau de l'Assemblée nationale, devant les collègues députés et au niveau de la Commission. Il a dit l'arrêté a été initié par son collègue de l'Intérieur. Moi, M. Agou, je lui ai dit, et c'est passé à la radio, on peut trouver le bande, je lui ai dit non, M. le ministre, je n'ai jamais reçu, même pas une fois, le ministre de l'Intérieur au niveau de la Commission Finances, mais c'est vous qui venez régulièrement défendre le budget. Vous aurez dû conseiller à votre collègue que non, ça a violé la loi et qu'il devait attendre. Pourquoi vous n'avez pas fait? Moi, je considère que c'est vous qui êtes responsable. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur parce que c'est vous qui êtes l'argentier du pays. M. Kikobe, parmi ses collègues, a demandé la parole. Il dit il émet de réserve. Que moi, je suis démenti. J'ai bondi le document. C'est à ce moment que j'ai sorti le document devant la présidente du Conseil d'administration et tous ses collègues, j'ai dit, M. Kikobe, je suis pasteur, je ne dis pas les bêtises, je sors les documents, je les donne. Tout de suite devant vous ici, il a dit, il émet des réserves par mes propos, quand j'ai bondi les documents, qui est convaincu maintenant que je dis la vérité. Vous voyez, M. Kikobe, je suis M. Agou,
J'ai gagné ma vie honnêtement. Personne ne peut lever un doigt un jour, dire Monsieur Agou a fait un faux ou Monsieur Agou a menti au nom de quelqu'un. Je ne fais pas ça.
On parle de la carte d'identité nationale.
Voilà.
L'autre aspect de ce débat, c'est comment la société Al-Madina aujourd'hui a pu gagner le marché de la confection de cette carte d'identité nationale si, selon les observations de la Direction générale de marché public, cette direction a fait des observations qui étaient vraiment en défaveur de la société Al-Madina. Mais comment comprendre aujourd'hui que Al-Madina soit encore l'entreprise qui doit confectionner les cartes d'identité? Monsieur Jean-Claude Zoubana.
Vous avez bien dit, il y a la direction de marché d'État. Je ne suis pas un financier. Ça relève du département des finances et du budget. Par conséquent, je suis mal placé pour vous répondre à cette question.
Mais c'est le ministère de l'Intérieur en collaboration avec le ministère des Finances qui a confectionné...
Vous parlez de la collaboration. La collaboration n'est pas une obligation.
Ok, merci. Maître Bruno Yassine Begba, comment expliquer aujourd'hui avec ces observations que nous avons ici, hein, absence d'un plan d'investissement, absence d'un plan d'exploitation provisionnelle pour déterminer le taux de rentabilité interne dans la durée, absence d'une charte de transparence avec toutes ces observations, Al-Madina propose de produire 15 millions de cartes d'identité en 10 ans, ce qui ne tient pas compte de notre démographie. Mais comment expliquer aujourd'hui que Al-Madina ait décroché ce contrat de confectionner les cartes d'identité en République centrafricaine?
Je vous remercie de nouveau. Il y avait déjà un débat entre le Conseil national de la jeunesse et le député Agou. J'aurais souhaité qu'après les enquêtes faites par le Conseil national de la jeunesse, il rappelle M. Agou pour aller discuter de ça encore. Voilà. Ça, c'est la chose la plus simple que de venir étaler leur divergence ici sur le plateau. J'ai lu cet arrêté interministériel illégal signé conjointement par les ministres Henri Wanzelingisara et Henri-Marie Dandra le 6 mai 2020. Lorsque vous voyez le visa, vous avez vu la constitution de la République centrafricaine du 30 mars, c'est le texte fondamental. Vu la loi numéro 19.14 du 17 décembre 2019 portant arrêtant le budget de l'État. Et maintenant, vous avez vu, on a vu les décrets. Et maintenant, vu le marché d'entente directe de type partenariat public-privé entre la société Al-Madina Group et l'État centrafricain. Ça se passe de tout commentaire. Ça veut dire qu'aucune procédure n'a été respectée. Ça veut dire entente directe. Donc l'avis que les responsables du marché de l'État donnent, on a piétiné ça allègrement. Parce que vous n'avez pas à nous évoquer quoi que ce soit. Parce que nous sommes dans la démarche d'une entente en violation de la loi, de tous les textes de la République avec Al-Madina, même au point, comme je le disais, d'amener et d'installer un monstre dans le pays pour faire ce qu'il veut. Tout simplement parce que nos responsables politiques et sécuritaires ont décidé de ne pas respecter la loi. Ils ont décidé de privilégier d'autres considérations en nous mettant dans l'insécurité. Parce que Al-Madina aujourd'hui, c'est une société qui est fichée. Alors, non seulement qu'elle est fichée, je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, parce que c'est une presse qui l'a dit, mais moi, ce qui m'intéresse, ce qui intéresse la population, c'est qu'on devait respecter la procédure d'attribution des marchés. Et en plus, nous sommes dans le domaine sécuritaire. Nous sommes un pays en conflit. Il y a beaucoup de difficultés. Et voilà qu'on vient encore compliquer les choses en donnant ce marché-là de gré à gré à cette société qui ne nous rassure aucunement. Nous demandons à ce que ce problème soit de nouveau débattu par les représentants du peuple et nos responsables politiques et sécuritaires pour qu'on choisisse une société qui peut nous garantir la sécurité et deuxièmement, qu'on puisse, je me répète, abroger purement et simplement cet arrêté interministériel qui est totalement illégal.
Ok, merci. Monsieur Jean-Claude Zoubanda, je vous vois impatient de réagir.
Oui, justement, c'est pour rebondir sur un aspect du point de vue du maître. C'est vrai, il est convié ici en tant que représentant de la société civile. C'est un peu vaste, mais ça nécessite encore une spécificité, une spécialité. Est-ce que, en venant, comme il est conseil, il est passé se faire consulter auprès du responsable de l'attribution des marchés publics et on a mis à sa disposition des avis qu'il est en train de nous donner. Ça encore, j'ai mis des réserves. Et c'est à ce niveau que je suis en train de relever qu'il est un peu mal placé pour nous donner des avis spécifiques de manière formelle.
Je crois que ce ne sont pas ces avis, mais les avis qui sont sur...
S'il évoque... Non, justement...
De la Direction générale des marchés publics, oui.
Mais justement, il a pris le document pour donner lecture. Et, permettez, je ne suis pas là pour commenter la décision de mes supérieurs hiérarchiques, mais en tout cas, il s'agit bien d'un arrêté interministériel. Ministère de l'Intérieur chargé de la Sécurité publique, ministère des Finances et du Budget. Alors, par déduction, ça veut dire que ces organes-là sont impliqués dans l'élaboration de ce document. Alors ça ne revient pas au maître ici présent de répondre à leur place.
Ah, je crois qu'il n'a pas répondu à leur place pour ne pas répondre à sa place. Mais je reste toujours avec vous, monsieur Jean-Claude Zubanda. Oui, Almadina, c'est cette entreprise-là qui confectionne les cartes d'identité, puis des documents administratifs sécurisés, à l'exemple de cartes de séjour, ainsi de suite. Mais son patron, monsieur Aziz Nassour, est un Libanais ici d'une famille réputée proche du Hezbollah. C'est un groupe terroriste au Liban. Il est aussi inscrit sur la liste de sanctions des Nations Unies pour trafic de diamants et soutien au régime de Charles Taylor au Libéria. Est-ce que, avec toutes ces informations, le ministère de la Sécurité publique avait cette obligation ou cette marge-là de lui attribuer un contrat de délivrer des cartes d'identité nationale en République centrafricaine?
Je me réserve de tout commentaire à partir du moment que je n'ai pas des précisions sous mes yeux pour vous répondre.
Mais vous représentez le ministère de l'Intérieur
aussi. Non, justement, je représente le ministère de l'Intérieur chargé de la sécurité publique. C'est des allégations. Et une allégation peut être avérée ou fausse.
Monsieur de la jeunesse, monsieur Karl Kikobé.
Oh oui, je crois que les gens doivent apprendre à assumer leurs actes dans ce pays. Ça, c'est une petite parenthèse que j'ai ouverte. Je la ferme. Je me pose une question qui est celle de savoir si réellement, monsieur le responsable El Madina,
Aziz Nassour,
voilà, a fait l'objet justement d'une poursuite judiciaire. Mais comment est-ce qu'il s'est retrouvé en République centrafricaine? Est-ce que les gens font réellement leur travail? Est-ce que le service, justement, de renseignement fait vraiment son travail? Deuxièmement, là, nous ne savons plus qui ment et qui nous dit la vérité. Que lors de nos investigations, nous avons été dans les deux ministères, on nous a fait comprendre qu'il y a eu 13 entreprises qui ont soumissionné, justement, pour l'attribution du marché. Ça, c'est une information que nous avons eue de, non seulement du côté du ministère des Finances, du côté de l'entreprise, mais aussi de l'autre ministère. Alors ici, on nous
prend... L'autre ministère, il s'agit de quel ministère? Parlez avec précision comme ça, je vais avoir le responsable pour lui poser la question de manière claire.
Oui, allez-y. Vous voulez parler du ministère de l'Intérieur, je crois.
Vous avez vu tout à l'heure quand les gens
ont parlé... Tout en citant le responsable.
On respecte la police du débat, M. Jean-Claude Zubanda.
Lorsque je ne suis pas situé, je ne peux pas vous répondre.
Je vous ai donné le temps de parole, vous avez parlé, vous avez fini. Quand quelqu'un d'autre a la parole, laissez-le de finir. Monsieur Carlos, allez-y.
D'accord. Je le réitère encore. D'après nos investigations, on nous a fait comprendre qu'il y a eu 13 sociétés qui ont soumissionné pour l'acquisition de ce marché. Et bon, après les traitements du dossier et tout consort, on a pu attribuer le marché à l'entreprise El Madina. Aujourd'hui, on nous situe clairement que le marché a été attribué de gré à gré. Je crois que nous avons un représentant du ministère de la Sécurité ici qui nous dise si justement il fait l'objet de cette accusation, comment est-ce qu'il s'est retrouvé sur le sol centrafricain et comment est-ce que après, parce que c'est sûr, ils ont procédé à une enquête de moralité avant de lui attribuer le marché. Alors, quel était le résultat de cette investigation, encore de cette enquête de moralité qui finit justement par lui attribuer le marché?
Si vous voulez répondre.
D'abord, commençons par là où il a mené ses investigations. Je ne sais pas à quel niveau.
Poussez-vous un peu du micro. Oui.
Et je ne sais pas à quel niveau il a mené ses investigations, où il est passé. Et de deux, c'est comme je venais de relever tout à l'heure, il se prend comme le responsable d'un département à qui on doit lui rendre compte. Alors, je regrette de la manière où ses prétentions sont formulées. Donc, du coup, je n'ai pas des avis à lui répondre là-dessus.
Ok, merci. Monsieur Augustin Agou.
Bien, je pense que votre question est bien précise et bien posée. Et je suis fier maintenant que mon fils me rejoint, parce que tout à l'heure, il semblait et mettre tous les doutes sur les propos de M. Agou, que M. Agou aurait menti à la Conseil nationale de jeunesse, après les investigations. Vous voyez, la vérité finit toujours par sortir. En tant qu'homme de Dieu, vous voyez, ces investigations l'ont donné comme résultat qu'il y a eu 13 entreprises qui ont soumissionné, mais les documents que j'avais mis à leur disposition de votre Conseil nationale de jeunesse dit clairement que c'était un marché de gré à gré. Alors, est-ce que mon cadet avait pris le temps de lire le document avant d'aller faire des investigations? Vous voyez? Donc, a priori, il y a un problème. Il y a un problème. Et comme je vous l'ai dit, la radio RFI, c'est une radio mondiale, écoutée dans le monde entier. Et donc, tout le monde a suivi ce qui a été dit hier. Pour être clair que ce monsieur a de moralité douteuse. Il est proche d'Al-Qaïda. Ça veut dire quoi? Notre inquiétude, je reviens là-dessus, parce que c'est l'occasion pour moi de le dire au peuple centrafricain que nous sommes en danger. Pourquoi? À supposer que un jour, le document, parce que c'est lui qui émet ce document, après dite national, cadre dans un endroit, peut se retrouver entre les mains de n'importe qui et que demain, ils peuvent commettre des attentats dans n'importe quel pays au monde et c'est le nom de notre pays, la République centrafricaine, qui va être terni.
C'est ça que les Africains doivent faire attention. Donc, nous ne sommes pas ici pour flatter Paul Opierre ou pour défendre les gens, mais le constat est là. Vous venez de lire et je vous propose, si vous pouvez encore relire l'avis de la Direction générale du passage du marché, pour que le peuple centrafricain écoute que la Direction générale du passage du marché avait émis un avis défavorable. Ils ont fait un rapport pour dire que ce à Madina n'avait pas qualité, ni moralement, ni financièrement, ni matériellement, pour qu'on puisse lui octroyer le marché pour délivrer le cadre national d'identité des pays centrafricains. Malgré tout ça, on a passé outre. Puis, comme on veut écraser la loi, personne ne veut respecter la loi dans notre pays et on lui a donné un marché gré à gré. Et donc, ouais, ça passe sans commentaire.
Maître Bruno.
Je voudrais répondre à mon ami Zoubanda, le représentant du ministère de la Sécurité, pour dire que quand on veut venir à un débat, on connaît le thème et on fait des recherches. C'est à ce titre que moi aussi j'ai fait mes recherches. Je ne peux pas venir comme ça, venir découvrir les informations. Non, on m'a dit qu'on devait débattre. Problème de la carte locale, parce que je ne dis pas nationale, mais locale d'identité. J'ai fait mes recherches et j'ai constaté, c'est parce que je n'ai pas amené mon texte, j'ai constaté avec les visas. Vous voyez, même malgré que c'est un arrêté interministériel qui est illégal, mais ils ont pris le temps d'étaler tous les textes, en commençant par la constitution, les décrets et consorts. Et sans se gêner, ils disent, vu le marché d'entente directe de type partenariat public-privé entre la société Al Madina Group et l'État centrafricain représenté par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il n'y a pas de date. Alors que tous les autres textes ont des dates. Mais ce marché-là, il n'y a pas de date. Vous voyez ? Donc, nous disons que, étant donné que nous sommes dans un problème de sécurité, le peuple centrafricain est mis dans l'insécurité par nos responsables politiques et sécuritaires. Il faut régler ce problème. Parce qu'il ne s'agit pas de venir dire que non, moi je viens fermer l'œil sur l'abeille pour que l'abeille puisse encore
piquer davantage.
Non, ce n'est pas possible. Il faut régler ce problème. Parce qu'ils ont l'obligation de rendre compte au peuple. C'est notre sécurité qu'ils gèrent. Ils ne gèrent pas leur sécurité. Si c'était leur sécurité, on n'allait pas se gêner. Mais c'est parce qu'ils gèrent notre sécurité que nous nous plaignons. Et donc, par rapport à cela, nous demandons à ce qu'on puisse tirer toutes les conséquences, remettre ce problème-là sur la place publique, demander à ce que les gens concourent. Normalement, on donne la latitude à la direction des marchés d'État en tenant compte de l'aspect sécuritaire pour attribuer le marché. Mais il est hors de question qu'on puisse faire semblant d'étaler les textes en voulant respecter la loi et finalement ne plus respecter la loi en nous brandissant ce document. Et surtout que, bon, Al Madina, mais on doit faire des enquêtes. Maintenant, aujourd'hui, avec les informations qui circulent, nous demandons maintenant à nos autorités de nous produire un rapport sur l'identité réelle et le risque que ce monsieur-là représente en récence dans notre pays.
Une autre question à vous, monsieur Jean-Claude Zoubanda. Est-ce que la police centrafricaine est pleinement impliquée dans ce processus-là de confectionnement de la carte d'identité nationale centrafricaine?
Je dirais oui. Le travail de technicité, c'est les policiers qui le font. Une fois les frais honorés auprès de cette société, mais les prélèvements, les empreintes digitales et autres, les vérifications techniques, c'est les policiers qui le font.
Ok, je vous remercie. Nous sommes pris par le temps. Je rappelle que nous avons débattu de la question de la délivrance de la carte nationale d'identité centrafricaine suspendue depuis 2013 et qui est en train de revenir, puisque pour l'instant, on est en train de délivrer les récépissés, mais pas encore les vraies cartes d'identité nationale. Je rappelle qu'on a reçu autour de ce plateau M. Jean-Claude Zoubanda, inspecteur central en matière de police au cabinet du ministère de l'Intérieur chargé de la sécurité publique. M. Jean-Claude Zoubanda, merci d'être venu.
À moi de vous remercier.
Nous avons également reçu M. Augustin Agou, député du 1er arrondissement, membre de la commission finance à l'Assemblée nationale et président du parti La Renaissance. M. Agou, merci.
Merci.
Nous avons également Maître Bruno Hyacinthe Biegba, avocat à la Cour, coordonnateur de la coalition centrafricaine pour la Cour pénale internationale, une organisation membre du groupe de travail de la société civile. M. Biegba, merci d'être venu dans l'émission Patara.
C'est moi qui vous remercie de cette opportunité.
Et également le représentant de la jeunesse, M. Karl-Michael Kikobé, premier vice-président du Conseil national de la jeunesse centrafricaine. Merci d'être venu.
C'est moi qui vous remercie.
Au centre du débat, je suis Rodrigue Leroy Benga. J'ai bénéficié de l'appui technique de Claire Ndombé Asamba, Stéphane Flimalé, Armand Oyengindi à la console technique. C'est le travail de David Bema et Sosten Zonaïta. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique de l'émission Patara sur Radio Ndekeluka.